prise après l'intervention du président du Sénat, Bukola Saraki, également médecin qualifié, qui a promis de former un comité parlementaire pour négocier avec le gouvernement. Il faut préciser que le syndicat mixte des travailleurs de la santé comprend les pharmaciens, les infirmiers, les technologistes de laboratoire et les autres paramédicaux du secteur de la santé publique, à l'exception des médecins et des dentistes. Le secteur de la santé est particulièrement défaillant au Nigeria, pays de 180 millions d'habitants, alors que le président Muhammadu Buhari effectue des voyages réguliers en Angleterre pour consulter son médecin.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de la constipation. La constipation est un ralentissement du transit intestinal, c'est-à-dire un ralentissement du voyage qu'effectuent les aliments que nous mangeons depuis la bouche jusqu'à leur évacuation par les selles. Ce sont généralement des difficultés à évacuer les selles et le mal de ventre qui avertissent les victimes qu'elles souffrent de la constipation. Pour parler des causes, des complications et des solutions pour combattre la constipation, nous recevons comme invité le professeur Christian Zeton. Il est gastro-entérologue et donc spécialiste de l'appareil digestif. Il travaille à l'hôpital général de Douala au Cameroun. Il est au micro de notre correspondant Joël Honoré Kwam.
Bonjour professeur et merci de répondre à cette invitation.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
C'est quoi la constipation?
Alors la constipation, la définition médicale et surtout gastro-entérologique, c'est des gens qui font moins de 3 selles par semaine. Alors en Afrique, les malades vont interpréter leur propre définition et beaucoup de gens pensent que quand vous allez à la selle et que c'est dur, il s'agit de constipation. On peut juste accepter que c'est une tendance à la constipation, mais il faut signaler que beaucoup de nos malades ont en fait ce qu'on appelle une constipation terminale, c'est-à-dire que les selles arrivent dans le rectum et ils ont des difficultés à les expulser. Donc c'est une forme de constipation qu'on voit souvent dans nos pays. Voilà un peu comment on peut définir la constipation.
Ok, justement, mais quelles sont les causes éventuelles de la constipation?
Alors je pense que la principale cause, c'est l'alimentation. Bien sûr, les gens qui ne boivent pas assez d'eau, qui ne mangent pas assez de fruits ou de légumes vont avoir tendance à être constipés. Vous voyez donc que c'est des choses qu'on va adapter dans le régime. Mais aussi, l'alimentation africaine avait beaucoup de féculents. Des choses comme les plantains, le riz, tout ça, ça constipe énormément. Et puis, il faut dire que de plus en plus, nous avons des gens qui passent vers l'obésité et donc la faiblesse de la paroi abdominale, ce qu'on appelle la sangle abdominale, va contribuer à la constipation. Il faut muscler cette sangle pour être moins constipé.
Ok. Justement, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque exposées à la constipation, comme des enfants obèses
Non, je pense que oui, les obèses, je viens de le dire, vont être exposés, mais le reste de la population, si vous avez le respect des règles d'hygiène dont je parlais en termes de boire de l'eau, manger des fruits et des légumes, vous ne serez pas constipé. Et on pense qu'il y a des familles où les gens ont tendance à être constipés, mais ce n'est pas vraiment démontré. Donc je crois qu'il n'y a pas de risque si vous respectez les règles alimentaires de manger moins de féculents. Nous avons énormément de féculents très durs dans notre alimentation qui vont constiper.
Et justement, quelles peuvent être les complications les plus graves d'une constipation d'après vous?
Alors la constipation, quand vous êtes très constipé, les selles qui restent dans l'intestin et qui sont surdigérées vont être source de maux de tête, etc. Et puis bien sûr, au niveau de l'absorption intestinale, si les selles traînent trop, l'absorption intestinale va être perturbée parce qu'il y a des aliments qui ont déjà été digérés et qui restent là et puis il n'y a plus rien à digérer dedans, donc ça peut jouer sur l'organisme en termes de manque d'apport. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres constipations. Les gens qui sont très constipés vont avoir du sang dans les selles parce qu'ils vont favoriser les hémorroïdes et donc les selles très dures vont traumatiser les hémorroïdes. C'est l'une des causes que nous retenons le plus en Afrique à l'origine d'hémorroïdes. Sinon, il n'y a pas d'autres complications réelles. Les autres complications ne sont pas directement liées à la constipation. On ne peut pas penser, par exemple, que quelqu'un qui est constipé finisse par se mettre en occlusion intestinale et tout ça. Non, je crois que ce n'est pas la même chose.
Et justement, certaines personnes se plaignent des constipations récurrentes. Qu'est-ce qui peut être la cause de cela?
Ben, encore une fois, la réponse est toute simple, le régime alimentaire. Vous savez que quand vous mangez à l'africaine, ben, vous vous exposez à la constipation. Si vous n'y ajoutez pas, comme j'ai déjà dit, les fruits, les légumes et tout ça, en Afrique, on mange très peu de fruits, alors que nous en avons énormément. Il y a des gens qui ne mangent pas de fruits, qui ne boivent pas d'eau, et puis qui ne mangent que des féculents, des trucs, une alimentation très sèche. Ben, ces gens-là seront constipés. Je pense qu'on peut retenir cela.
Okay. Et pour finir, comment faire pour éviter ou soigner la constipation?
Alors, pour éviter, c'est les règles hygiéno-diététiques, comme je vous ai dit depuis le début, c'est-à-dire, c'est simple, beaucoup d'eau, manger des fruits, beaucoup, et manger souvent des légumes, plus de légumes que de féculents. Et pour soigner, ben, nous avons des recettes chez les gens chez qui ces règles d'hygiène et de diététique ne marchent pas. Ben, on utilisera des laxatifs doux, qui sont souvent des mucilages ou des huiles, comme l'huile de paraffine et tout ça, toutes les spécialités qui en contiennent. Mais en tout cas, nous déconseillons formellement les laxatifs irritants, qui vont irriter de façon motrice le côlon et qui vont finir par compliquer les choses. Et le risque extrême avec ces laxatifs irritants, c'est de créer ce qu'on appelle la maladie des laxatifs. C'est-à-dire que l'intestin va être intoxiqué et va se paralyser, et donc le résultat que vous cherchiez sera l'inverse. Vous serez constipé, et ça, là, ça peut être grave, parce que la maladie des laxatifs, qui touche souvent les femmes, est quelque chose de grave et difficile à soigner. Donc des laxatifs doux uniquement, ou bien des simples suppositoires à la glycérine ou des préparations officinales, etc.
Merci beaucoup, docteur.
Ouais, je vous remercie.
Nous remercions le professeur Christian Zeton, gastro-entérologue à l'hôpital général de Douala au Cameroun. Il était au micro de notre correspondant, Joël Honoré Kwam.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
La constipation est souvent causée par certains aspects de notre style de vie, comme ne pas manger assez de légumes, ne pas boire suffisamment et ne pas faire régulièrement de l'exercice, ainsi que par d'éventuels troubles psychiques comme le stress, la dépression et l'anxiété. Mais dans la majeure partie des cas, ce sont nos habitudes alimentaires qui favorisent la constipation. C'est pourquoi nous avons contacté une nutritionniste, Marthe-Élise Tanqueux. Puisqu'il s'agit d'elle, est nutritionniste et diététicienne à Douala, au Cameroun. Elle nous explique quand, comment et ce qu'il faut manger pour éviter la constipation. Elle est au micro de notre correspondant, Joël Honoré Kouam.
Ok, bonjour madame. Okay. Madame Tanque, est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent la constipation? Si oui, quels sont ces aliments?
Merci. Avant de répondre à cette question, il faut déjà définir ce que c'est que la constipation. La constipation, c'est la difficulté de faire les selles, ou bien les selles très espacées, parce que nous sommes constipés lorsque nous considérons que moins de 3 selles par semaine, on considère que c'est constipé. Elle peut être chronique dans la constipation, ou bien passagère, ça dépend de votre état physiologique à ce moment-là. Alors, à partir la constipation est installée, il s'avère avoir un régime alimentaire assez sain pour pouvoir venir à bout de la constipation. Alors, il y a des aliments qui peuvent favoriser la constipation. Premièrement, le fait qu'on ne boive pas assez d'eau, ça fait que les selles sont très secs et ça favorise la constipation. Le deuxième aspect, c'est la mastication. Lorsqu'on ne mastique pas bien les aliments, on alourdit la phase digestive et le temps de transit aussi long, donc ça favorise la constipation. L'autre aspect, c'est les aliments raffinés, donc les produits industrialisés comme les pains blancs, les biscuits, les gâteaux et autres vont favoriser la constipation parce que c'est carrément une véritable colle au niveau de notre côlon. L'autre aspect, c'est lorsqu'on ne consomme pas assez de légumes dans son alimentation, les fruits, les légumes également qui sont riches en fibres. Cela va aussi faire installer la constipation. La consommation d'alcool et du tabac aussi favorise la constipation. Vous voyez qu'il y a plusieurs aliments, je ne peux pas les citer tous, qui favorisent vraiment la constipation. Donc, c'est d'abord une hygiène de vie qu'il faudrait avoir pour la constipation.
Est-ce que les habitudes alimentaires peuvent aussi expliquer la constipation? Par exemple, manger plusieurs fois pendant la journée?
Manger plusieurs fois pendant la journée fatigue le système digestif et dans ce sens-là, ça peut favoriser la constipation parce qu'il n'y aura pas assez d'énergie pour pouvoir allouer au phénomène de dépression du corps. À ce moment, ça peut favoriser la constipation. Par contre, si je mange plusieurs fois par jour et que ce sont des légumes et des fruits, ça ne favoriserait pas la constipation. Donc, ces habitudes-là, c'est important de savoir. L'autre aspect, c'est que les dans leurs habitudes mangent en étant pressés. Donc, du coup, l'énergie n'est même pas allouée à la digestion, au phénomène de la digestion, et du coup, la constipation va aussi s'installer.
Est-ce que consommer les légumes permet d'éviter la constipation? Est-ce que c'est vrai déjà et pourquoi?
Oui. Oui, ça c'est sans équivoque. Consommer les légumes permet d'éviter la constipation parce que les légumes sont déjà riches en eau, hein, l'eau qui va rendre les selles molles, mais surtout parce qu'il y a des fibres. Les fibres, ce sont les sortes de sucre et des glucides que le corps ne digère pas. Hein. C'est des glucides que le corps ne peut pas digérer. Il y en a deux sortes de fibres. Il y aura les fibres solubles, c'est-à-dire qui peuvent former une pâte à l'intérieur de notre tractus gastro-intestinal et favoriser la sortie des selles. L'autre qualité, c'est les fibres insolubles qui vont plutôt s'engorger de beaucoup d'eau, augmenter le volume des excréments, et comme ça met la pression parce que c'est beaucoup, ça va faciliter la sortie des selles. Donc effectivement, les légumes sont bien pour favoriser, pour lutter contre la constipation, et surtout les légumes de couleur, les légumes verts par exemple. Donc c'est très intéressant parce que parmi ces légumes, on aura également, on va dire, des plantes mucilagineuses qui glissent, comme le gombo, comme la forêt potagère, comme je vais appeler ça quoi, l'endor, c'est le Invigia gabonaise, dans le noyau de mango par exemple. Donc on aura ces plantes là, comme les épinards par exemple, le watalip, on aura ces plantes qui vont favoriser donc l'élimination des selles et en agissant également sur le péristaltisme intestinal.
Maintenant, qu'en est-il des boissons, l'eau, le thé et les autres? Est-ce qu'elles sont utiles pour prévenir ou combattre la constipation?
Ça dépend à ce moment, parce que l'eau va augmenter, va ramollir les selles déjà pour faciliter la vidange gastrique, et si la vidange gastrique est bonne, donc les selles vont aussi facilement sortir. Là, maintenant, il y a les boissons. Si c'est les boissons sucrées, les boissons alcoolisées, nous savons que l'alcool, justement, ça ne peut pas favoriser l'élimination des selles. Au contraire, ça va même irriter la paroi intestinale. Ce n'est pas bien pour la santé. Mais les autres boissons, qui ne sont pas forcément des boissons nutritives, comme les thés et les tisanes, pourraient, si c'est des formes laxatives doux, parce que si vous en prenez beaucoup, vous devenez dépendant. C'est là l'inconvénient de prendre les thés pour pouvoir aller à la selle. Le corps s'habitue à la paresse, il sait que ok, j'aurais besoin du béquille, et comme ma pote toujours la béquille, ma tasse de béquille chaque fois, et donc il s'appuie sur la béquille, il sera un peu paresseux. Il serait intéressant plutôt de voir sa façon de manger et de combattre autrement. Ne prendre que de ces laxatifs et tout ce boisson qu'en dernier recours.
Et maintenant, comment manger pour éviter justement la constipation pour finir cette interview?
Oui, comment manger? C'est déjà manger à la bonne heure, c'est-à-dire respecter le temps physiologique qui doit se passer entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Normalement, quand vous avez mis un aliment dans votre ventre, vous avez mangé, quand vous mangez un aliment, il faut laisser passer au moins 6 heures de temps avant d'envoyer le prochain aliment, que les enzymes fassent le travail et que parce que la digestion complète dure 24 heures. Et comme le temps de digestion n'est pas le même pour les différents aliments, il faudrait donc respecter ce temps-là. Ensuite, il faut bien mâcher les aliments. Pourquoi? Pour que l'amylase salivaire commence à amorcer le travail de la digestion avant que ça arrive au niveau de l'estomac. Et on fatigue au moins le corps. À ce moment, il y aura assez d'énergie allouée à l'excrétion, donc à l'évacuation des déchets. Notre aspect, c'est de savoir choisir ces aliments. Donc, il faut connaître les aliments qui constipent et ceux qui ne constipent pas. Les aliments qui ne constipent pas surtout, ce sont les légumes frais et c'est également les fruits secs, hein, comme les dattes, les pruneaux et autres. Donc, ce sont ces légumes qu'il faudrait choisir, avoir ce qu'on dit selon le PNLS, le Programme National Nutrition Santé, 5 fruits et légumes, c'est-à-dire que soit 3 légumes plus 2 fruits ou bien 3 fruits plus 2 légumes, il faudrait avoir cela à table. L'autre aspect, c'est de réduire les aliments industrialisés. Tous les produits industriels, raffinés, autres, il faudrait les réduire. Et trop de gras, parce que tous les aliments qui sont gras n'ont pas beaucoup de fibres, ils constipent. Donc, il faudrait les éviter. Et aussi, aujourd'hui, les gens sont trop en une alimentation très, très carnée. Il faudrait réduire la consommation des viandes parce que les viandes n'ont pas de fibres, n'ont pas de glucides. Et donc, du coup, ils vont favoriser la constipation. Lorsque vous allez avoir tous ces éléments-là réunis de votre côté, si vous êtes toujours constipé, on peut voir, on peut pousser le bouchon un peu plus loin pour chercher les causes de cette constipation. Parce que ça peut être une pression, ça peut être un côlon qui est plus long que la norme, ainsi de suite. Et du coup, le voyage des aliments ou des selles est aussi plus long. Et à ce moment, ce n'est pas forcément une grande constipation en tant que telle.
Merci d'avoir accepté de répondre dans nos questions, Madame Tanque.
Je vous en prie.
Nous remercions Marthe Élisée Tanque, nutritionniste et diététicienne à Douala, au Cameroun. Son interview a été réalisée par notre correspondant Joël Honoré Kouam.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Et c'est le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Aman Nguenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France.
Bon, je m'appelle Yanni Kenzouzi. Je suis dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis étudiant à la faculté de médecine. C'est là une question que je voulais poser. Je voulais savoir le nombre de médicaments que les drépanocytaires prennent pour renouveler les hémoglobines fœtales dans leur organisme souvent.
Ce que je peux expliquer à Yannick, c'est que la drépanocytose est une maladie héréditaire qui touche le globule rouge et particulièrement l'hémoglobine. Et cette maladie va de ce fait se transmettre des parents aux enfants. Les parents qui vont transmettre génétiquement à leur enfant une hémoglobine anormale, qui est encore appelée hémoglobine falciforme ou hémoglobine S, alors qu'ils devraient en principe transmettre à leur progéniture une hémoglobine normale, à savoir une hémoglobine A. C'est ainsi qu'on va retrouver des drépanocytaires homozygotes, drépanocytaires SS, ou des drépanocytaires hétérozygotes, drépanocytaires AS. La forme homozygote est une forme assez grave. La forme hétérozygote est une forme assez bénigne. La drépanocytose n'a pas de traitement radical, mais certains médicaments ont pu apporter une efficacité dans la stimulation, la production de l'hémoglobine fœtale. C'est le cas notamment de l'hydroxyurée, encore appelée hydrea ou droxia, et parfois cyclos, qui sont des présentations pharmaceutiques. Ces médicaments très chers et rarement disponibles, en Afrique notamment, ont apporté effectivement une certaine efficacité dans la stimulation, la production de l'hémoglobine fœtale. D'autres mesures toutefois sont nécessaires pour le bien-être du drépanocytaire, dont notamment une bonne hydratation, boire beaucoup d'eau, c'est au moins 2 litres d'eau par jour, apporte un bien-être aux personnes drépanocytaires. Il faut aussi avoir une alimentation assez saine, une supplémentation en acide folique, lutter contre la douleur par notamment du paracétamol et se protéger contre les infections vont apporter un bien-être aux drépanocytaires, se protéger contre le paludisme et puis bien évidemment se vacciner contre un certain nombre de maladies, notamment le pneumocoque, pour protéger le drépanocytaire de ces infections-là. Mais pour répondre encore à la question de Yannick, il n'y a pas de traitement radical contre la drépanocytose, mais on peut retrouver effectivement certains médicaments, dont notamment l'hydroxyurée, qui va stimuler cette production d'hémoglobine fœtale et quelques mesures pour le bien-être drépanocytaire. Voilà ce que je pourrais répondre à Yannick.
Docteur, comment expliquer qu'aujourd'hui il y a des femmes qui mettent au monde des enfants qui ont des malformations?
Des enfants qui naissent au monde avec des malformations, on qualifie ces malformations de malformations congénitales. Et les causes des malformations congénitales sont multiples. Je vais ici énumérer notamment 3 causes. La première cause de ces malformations vont être des anomalies chromosomiques, à savoir qu'il y a une aberration au niveau de la structure du chromosome. La deuxième cause, qui représente à peu près un tiers des causes qu'on peut retrouver dans les malformations congénitales, ce sont des anomalies génétiques, à savoir qu'il y a une mutation dans les gènes des cellules lors de la constitution de l'enfant. Et la troisième cause, c'est ce qu'on appelle les embryopathies. Les embryopathies, en fait, c'est des maladies de l'embryon. Et là, c'est souvent là où nous retrouvons la majorité des causes qu'on peut éviter. On a dans un premier temps l'exposition à des radiations ionisantes, à des rayons X. Cette exposition d'une femme enceinte à des rayons X peut être source, effectivement, de malformations congénitales. On a aussi des causes toxiques. Là, c'est par exemple la femme qui va, par exemple, prendre un médicament qui est connu comme étant tératogène, à savoir qui est connu comme pouvant provoquer des malformations. On a aussi l'alcoolisme. L'alcoolisme, une femme qui est enceinte et qui prend de l'alcool de façon abondante peut voir son bébé souffrir net avec un certain nombre de malformations congénitales. Et puis, il y a un certain nombre d'infections aussi qui peuvent être des causes de ces malformations congénitales. La rubéole, cytomégalovirus, la toxoplasmose, qui est une maladie parasitaire, la rubéole. Donc ça, c'est des causes infectieuses qu'il faut vraiment éviter chez la femme enceinte. Une femme enceinte doit vraiment éviter d'attraper ces maladies-là, parce que c'est des maladies qui peuvent provoquer ces malformations chez le bébé à sa naissance. C'est pour ça que le conseil que je vais pouvoir donner à cet auditeur, c'est vraiment pour éviter ces malformations congénitales. Si on ne peut pas faire grand-chose concernant les anomalies chromosomiques ainsi que les anomalies génétiques, il faudrait surtout éviter d'être exposé à des facteurs environnementaux comme les rayons X, la prise de médicaments qui peuvent être délétères et l'exposition à certaines infections. Et voilà comment on peut éviter certaines malformations congénitales chez un enfant.
Bonjour docteur, mon frère a 10 ans et fait encore pipi au lit. Est-ce que c'est normal docteur? Jusqu'à quel âge peut-on arrêter de faire pipi au lit? Qu'est-ce que je veux faire pour mon frère?
Ben, il faut dire que faire pipi au lit en médecine, ça s'appelle l'énurésie. En fait, c'est une miction, enfin, c'est une façon de faire pipi de façon complète, de façon involontaire, vraiment, et puis surtout de façon inconsciente, et ceci pendant le sommeil de l'enfant. Le contrôle physiologique, notamment de ce sphincter vésical-là qui permet d'éviter de faire pipi, s'acquiert à partir de 5 ans. Donc, on va effectivement dire qu'un enfant souffre du fait de faire pipi au lit lorsqu'il continue à faire pipi au lit au-delà de l'âge de 5 ans. En dessous, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a des enfants qui vont être propres, comme on dit, la nuit. Mais si cet acte-là survient de façon épisodique, à savoir que ce n'est que de temps en temps, quelques nuits, de façon exceptionnelle que l'enfant fait pipi au lit, là il faut aller chercher une autre cause. En général, les causes sont plutôt des causes d'ordre psychologique. Il y a peut-être un trouble psychologique dans la famille, il y a peut-être quelque chose qui est survenu dans la famille qui bouleverse psychologiquement l'enfant. Et à ce niveau-là, on se trouve en présence vraiment d'une énurésie qui est d'origine psychologique. Quoi qu'il en soit, le conseil que je peux donner à notre auditeur, dans un premier temps, c'est déjà le rassurer en disant que son frère ne continuera pas à faire pipi au lit. Au bout du compte, cette vessie-là connaîtra sa maturation et il fera de moins en moins pipi au lit. Mais il faudrait quand même qu'il amène son frère consulter un médecin afin qu'il puisse déterminer vraiment la cause. Si la cause est une cause maladie du fait d'une immaturité vésicale, il y a effectivement des traitements qui existent qu'on peut donner à l'enfant pour qu'il puisse avoir moins envie de faire pipi au lit. C'est des médicaments qu'on donne contre ce qu'on appelle l'énurésie, médicaments qu'on donne vraiment contre l'incontinence nocturne de l'enfant. Et c'est un médicament qui va accélérer la maturation vésicale. Par contre, si c'est d'ordre psychologique, bon, bien évidemment, il faut un suivi psychologique. Dans l'attente, les conseils que je peux donner à notre auditeur, c'est que dans un premier temps, le soir, il faut éviter de faire boire cet enfant-là dans les heures qui précèdent le fait qu'il va aller au lit. Il faut éviter de le faire boire des boissons. Et surtout, il faut absolument l'amener faire pipi avant qu'il ne se couche. Voilà les deux mesures qui vont lui permettre d'éviter de faire pipi au lit en attendant une éventuelle consultation médicale pour préciser exactement la cause. Voilà ce que je pouvais dire à cet auditeur.
Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voafrique.com et sur nos télévisions partenaires.
Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la constipation. Il s'agit d'un trouble digestif qui se caractérise par une émission difficile et rare des selles. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le professeur Christian Teuton, gastro-entérologue à l'hôpital général de Douala au Cameroun. Il nous a parlé des conséquences, des causes, des complications et des solutions pour combattre la constipation. Nous avons aussi écouté Marthe-Élise Tanque, nutritionniste et diététicienne à Douala au Cameroun. Elle nous a expliqué ce qu'il faut manger et comment le faire pour réduire les risques ou éviter la constipation. Nous leur disons merci.
Nous disons également merci à Firmin Kouyaouida qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à notre correspondant Joël Honoré Kouam à Douala au Cameroun. Un grand merci à Gabriel Nina, à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Smissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierro et de Carl Starling qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Munezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Koumfa.
Continuez à écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.